ici 1h à Paris, minuit en temps universel.
Antoine Gallen.
À la une, la rencontre des Européens au sujet de l'Ukraine au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron à Washington. On fait le point en début de journal. La désillusion du gouvernement mexicain qui s'efforce de faire preuve de bonne volonté envers son voisin américain. L'agence onusienne en charge des réfugiés palestiniens met en garde contre les appels à l'annexion de la Cisjordanie occupée. Et puis le Premier ministre François Bayrou appelle l'Algérie au respect des droits de l'écrivain Boualem Sansal. Les États-Unis n'accorderont aucune garantie sécuritaire à l'Ukraine. L'Europe s'en chargera, c'est ce qu'a déclaré Donald Trump ce mercredi soir, alors qu'Emmanuel Macron s'exprimait aujourd'hui sur sa visite à Washington avec les membres du Conseil européen. À l'ordre du jour, l'implication européenne dans la résolution du conflit avec la Russie, mais aussi les garanties sécuritaires pour l'Ukraine. Lila Olkinura, les Européens cherchent encore à s'entendre.
D'abord sur l'envoi de troupes. Pour pallier un désengagement américain, il faudrait réunir 300 000 soldats européens. Keir Starmer a avancé des propositions en ce sens, évoquant le déploiement d'une force de réassurance en Ukraine. Le premier ministre suédois Ulf Kristersson n'exclut pas non plus la possibilité d'un envoi. Il s'exprimait ce mercredi après-midi après une rencontre avec Giorgia Meloni.
Atteindre la paix par la force est essentiel et la situation de l'Ukraine ne concerne pas seulement l'Ukraine, mais aussi l'avenir du reste de l'Europe.
Une position qui n'est pas partagée par tous les dirigeants européens. Pour l'italienne Giorgia Meloni, il ne peut y avoir de paix juste et durable que dans le cadre de l'OTAN.
J'ai la conviction que les garanties de sécurité pour l'Ukraine doivent être réalisées dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Je pense que c'est le meilleur cadre pour garantir une paix qui ne soit ni fragile ni temporaire et qui justement écarte le risque que l'Europe ne retombe dans le drame de la guerre. Les autres solutions me semblent plus complexes et franchement moins efficaces.
Mais après la déclaration de Trump qui désengage les États-Unis de toute garantie de sécurité pour l'Ukraine, les Européens vont encore devoir revoir leur stratégie et surmonter leurs divisions.
Ce mercredi soir, Emmanuel Macron a rencontré Friedrich Merz, le probable futur chancelier allemand. Un dîner pour relancer le couple franco-allemand, mais aussi pour parler de la guerre en Ukraine. Autre rencontre, celle entre le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ils se verront à Londres lors d'un sommet avec des dirigeants européens sur la défense de l'Europe. L'Union européenne veut mettre un coup de frein à certaines législations environnementales. Et ce, pour faire face à la concurrence américaine et chinoise. La chef de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, a par exemple annoncé le report d'un an et la révision du droit de vigilance imposé aux industriels. Ce texte exigeait des entreprises qu'elles préviennent et remédient aux violations de droits humains et dommages environnementaux. Elle a fait ses propositions à Anvers devant un parterre d'industriels. On l'écoute.
La simplification est vitale pour la compétitivité de l'Europe. Nous allons donc alléger les lourdeurs administratives dans un certain nombre de domaines. Mais je veux être clair, nos objectifs climatiques et sociaux restent inchangés. Parce que les jeunes ne nous pardonneraient jamais de ne pas relever le défi du réchauffement climatique. Et aussi parce que l'industrie a besoin de prévisibilité. Dans d'autres parties du monde, on voit déjà l'impact du recul en matière de politique climatique sur les investissements. Donc, nous maintenons le cap vers nos objectifs de décarbonation. Mais pour atteindre ces objectifs, nous serons adaptables, flexibles et pragmatiques.
La chef de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen. Les propositions devront ensuite être approuvées par le Conseil et le Parlement européen.
RFI.
Direction Mexico. Après un mois de répit, les droits de douane que Donald Trump veut imposer au Mexique et au Canada entreront bien en vigueur. C'est ce que déclare le président américain. Une désillusion pour le gouvernement mexicain qui s'efforce de faire preuve de bonne volonté envers son voisin. Notamment en ce qui concerne la lutte contre les cartels et le trafic de drogue. Marine Le Bègue.
L'objectif, impressionner Donald Trump. Pour cela, le gouvernement mexicain mise tout sur la lutte contre le trafic de drogue et plus précisément de fentanyl, la bête noire du président américain. Le ministre mexicain de la Sécurité publique le sait et n'hésite pas à rappeler les chiffres impressionnants obtenus depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement en octobre dernier.
Dans l'état du Sinaloa, 900 personnes ont été arrêtées, 50 laboratoires ont été démantelés, près de 40 000 kilos de drogue ont été saisis, dont des des pilules de fentanyl.
L'accent est mis sur la région du Sinaloa, dans le viseur des États-Unis, car contrôlée par le puissant cartel de Sinaloa. Mais aussi à la frontière nord du Mexique, dans ses négociations avec Donald Trump, Claudia Sheinbaum a accepté d'y envoyer 10 000 hommes.
À partir del 5 de febrero,
le 5 février dernier, l'opération Frontière Nord a été lancée pour sécuriser cette zone et éviter le trafic de drogue, de personnes et d'armes à feu. Entre le début de cette mission et le 23 février, 746 personnes ont été arrêtées et 700 armes à feu ont été saisies.
Mais pour l'instant, Donald Trump ne semble pas satisfait par ces avancées. Il ne reste qu'une semaine au gouvernement mexicain pour le convaincre d'abandonner ses droits de douane qui plomberaient l'économie du pays. Marine Le Bègue, Mexico, RFI.
Et aux États-Unis, Donald Trump revient sur une autorisation d'exploiter du pétrole au Venezuela. Il accuse Caracas de ne pas respecter un accord de rapatriement de ses migrants. L'entreprise Chevron avait bénéficié d'un accord de transaction pétrolière de la part de Joe Biden en novembre 2022. Au Soudan, l'ONU suspend son aide alimentaire dans le camp de déplacés de Zamzam. Au moins 500 000 personnes vivent dans ce camp frappé par la famine dans l'ouest du pays. Le programme alimentaire mondial évoque des combats trop importants. Il y a deux jours, l'ONG française Médecins sans frontières a pris la même décision. Au Soudan, la guerre fait rage depuis avril 2023. Deux clans s'opposent, l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts et déraciné plus de 12 millions de personnes. Au Proche-Orient, les transformations en cours représentent peut-être notre dernière chance de parvenir à la solution à deux États, israéliens et palestiniens. C'est ce qu'a estimé mardi un responsable de l'ONU, mettant notamment en garde contre les appels à l'annexion de la Cisjordanie occupée. Sigrid Kaag, émissaire de l'ONU pour le processus de paix dans la région, s'exprimait devant le Conseil de sécurité. Ces derniers jours, des dizaines de milliers de Palestiniens habitant la Cisjordanie ont été déplacés. Précision de Jonathan Follet de l'UNRWA, l'agence onusienne en charge des réfugiés palestiniens, joint par Paul Estanol de la rédaction en espagnol de RFI.
La situation est très très grave en Cisjordanie, c'est très inquiétant parce que depuis quelques semaines, nous avons assisté au déplacement de force d'environ 40 000 personnes de plusieurs camps des réfugiés palestiniens en Cisjordanie. Et ça, c'est parfaitement inacceptable qu'une population soit déplacée en masse de cette façon. Malheureusement, nous avons déjà vu ça à plusieurs reprises à Gaza. Donc, nous sommes inquiets par le spectre d'une gazification, dans certains sens, des opérations des forces israéliennes en Cisjordanie. Dernièrement, nous avons eu des dires du ministre de la Défense qui a dit qu'effectivement, la population serait interdite de retour dans ces camps. Donc ça voudrait dire que ça fait perdurer la situation de déplacement. Donc ça, c'est la situation. Et nous nous trouvons avec 40 000 personnes et ensuite les besoins humanitaires ne vont qu'en augmentant à cause de cette situation.
Jonathan Follet de l'UNRWA, l'agence onusienne en charge des réfugiés palestiniens. L'état du pape François en légère amélioration, c'est ce qu'indique le Vatican. Le souverain pontife âgé de 88 ans souffre d'une pneumonie dans les deux poumons. Cela fait 13 jours qu'il est hospitalisé à Rome. En France, François Bayrou a adressé ce mercredi un ultimatum aux autorités algériennes pour que celles-ci respectent le processus de réadmission de leurs ressortissants que la France veut expulser. Le Premier ministre a également profité pour glisser un mot sur un autre dossier sensible entre Paris et Alger, la détention par l'Algérie de l'écrivain Boualem Sansal. Pas d'appel à sa libération de la part du chef du gouvernement, mais des inquiétudes exprimées.
Le gouvernement français est extrêmement sensible à la situation qui a été créée pour ce grand écrivain qui est désormais de nationalité française autant que de nationalité algérienne, qui a été récemment l'objet de pressions pour changer son avocat. Nous pensons qu'il est dans un état de santé inquiétant. Prononcer le nom de Boualem Sansal dans cette conférence de presse, c'est évidemment une manière de dire l'importance que la France accorde à sa personnalité et au respect qu'il devrait lui être dû.
François Bayrou, le Premier ministre français RFI, bientôt 1h10 à Paris, minuit 10 en temps universel. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes à l'écoute d'RFI.